Chapitre 6. Vers la fin du mois de février, Pierre Quint, le notaire, porta le coup qui devait précipiter dans la tombe une femme angélique dont l'âme, disait l'abbé de Solis, était presque sans péché. Madame, lui dit-il à l'oreille en saisissant un moment où ses filles ne pouvaient pas entendre leur conversation, Monsieur Claës m'a chargé d'emprunter 300 000 francs sur ses propriétés. Prenez des précautions pour la fortune de vos enfants. » Madame Claës joignit les mains, leva les yeux au plafond et remercia le notaire par une inclination de tête bienveillante et par un sourire triste dont il fut ému. Cette phrase fut un coup de poignard qui tua Pepita. Dans cette journée, elle s'était livrée à des réflexions tristes qui lui avaient gonflé le cœur et se trouvait dans une de ces situations où le voyageur, n'ayant plus son équilibre, roule, poussé par un léger caillou, jusqu'au fond du précipice qu'il a longtemps et courageusement côtoyé. Quand le notaire fut parti, Madame Claës se fit donner par Marguerite tout ce qui lui était nécessaire pour écrire, rassembla ses forces et s'occupa pendant quelques instants d'un écrit testamentaire. Elle s'arrêta plusieurs fois pour contempler sa fille. L'heure des aveux était venue. En conduisant la maison depuis la maladie de sa mère, Marguerite avait si bien réalisé les espérances de la mourante que Madame Claës jeta sur l'avenir de sa famille un coup d'œil sans désespoir en se voyant revivre dans cet ange aimant si fort. Sans doute, ces deux femmes présentaient de mutuelles et tristes confidences à se faire. La fille regardait sa mère aussitôt que sa mère la regardait, et toutes deux roulaient des larmes dans leurs yeux. Plusieurs fois, Marguerite, au moment où Madame Claës se reposait, disait « Ma mère !» comme pour parler. Puis elle s'arrêtait comme suffoquée, sans que sa mère, trop occupée par ses dernières pensées, lui demandât compte de cette interrogation. Enfin, Madame Claës voulut cacheter sa lettre. Marguerite, qui lui tenait une bougie, se retira par discrétion pour ne pas voir la suscription. « Oh, tu peux lire, mon enfant !» lui dit sa mère d'un ton déchirant. Marguerite vit sa mère traçant ces mots « À ma fille Marguerite. » « Nous causerons quand je me serai reposée, » ajouta-t-elle en mettant la lettre sous son chevet. Puis elle tomba sur son oreiller comme épuisée par l'effort qu'elle venait de faire et dormit durant quelques heures. Quand elle s'éveilla, ses deux fils étaient à genoux devant son lit et priaient avec ferveur. Ce jour était un jeudi. Gabriel et Jean venaient d'arriver du collège, amenés par Emmanuel de Solis, nommé depuis 6 mois professeur d'histoire et de philosophie. « Chers enfants, il faut nous dire adieu !» s'écria-t-elle. « Vous ne m'abandonnez pas, vous, et celui que... » Elle n'acheva pas. « Monsieur Emmanuel, dit Marguerite en voyant pâlir sa mère, « allez dire à mon père que maman se trouve plus mal. » Le jeune Solis monta jusqu'au laboratoire, et après avoir obtenu de Lemulquinier que Balthazar vint lui parler, celui-ci répondit à la demande pressante du jeune homme, « Oh, j'y vais !»« Mon ami, dit Madame Claës à Emmanuel quand il fut de retour, « emmenez mes deux fils et allez chercher votre oncle. » Il est nécessaire, je crois, de me donner les derniers sacrements. Je voudrais les recevoir de sa main. » Quand elle se trouva seule avec ses deux filles, elle fit un signe à Marguerite qui, comprenant sa mère, renvoya Félicie. « Je vais à vous parler aussi, ma chère maman, » dit Marguerite, qui, ne croyant pas sa mère aussi mal qu'elle l'était, agrandit la blessure faite par Pierre Quint. « Depuis 10 jours, je n'ai plus d'argent pour les dépenses de la maison et je dois au domestique 6 mois de gage. J'ai voulu déjà deux fois demander de l'argent à mon père et je ne l'ai pas osé. Vous savez pas, bien les tableaux de la galerie et de la cave ont été vendus. Oh, il ne m'a pas dit un mot de tout cela, s'écria Madame Claes. Mon Dieu, ah, oh, vous me rappelez à temps vers vous. Mes pauvres enfants, que deviendrez-vous? Elle fit une prière ardente qui lui teignit les yeux des feux du repentir. Marguerite, reprit-elle, en tirant la lettre de dessous son chevet, voici un écrit que vous n'ouvrirez et ne lirez qu'au moment où, après ma mort, vous serez dans la plus grande détresse, c'est-à-dire si vous manquiez de pain ici. Ma chère Marguerite, aime bien ton père, mais aie soin de ta sœur et de tes frères. Dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, tu vas être à la tête de la maison. Sois économe. Si tu te trouvais opposé aux volontés de ton père, et le cas pourrait arriver, puisqu'il a dépensé de grandes sommes à chercher un secret dont la découverte doit être l'objet d'une gloire et d'une fortune immense. Il aura sans doute besoin d'argent. Peut-être t'en demandera-t-il. Alors déploie toute la tendresse d'une fille et sache concilier les intérêts dont tu seras la seule protectrice avec ce que tu dois à un père, à un grand homme, qui sacrifie son bonheur, sa vie, à l'illustration de sa famille. Il ne pourrait avoir tort que dans la forme. Ses intentions seront toujours nobles. Il est si excellent. Son cœur est plein d'amour. Vous le reverrez beau et affectueux, vous. Oui, j'ai dû te dire ces paroles sur le bord de la tombe. Marguerite, si tu veux adoucir les douleurs de ma mort, tu me promettras, mon enfant, de me remplacer près de ton père, de ne lui point causer de chagrin, ne lui reproche rien, ne le juge pas. Enfin, sois une médiatrice douce et complaisante jusqu'à ce que son œuvre terminée, il redevienne le chef de sa famille. Je vous comprends, ma mère chérie, dit Marguerite, en baissant les yeux enflammés de la mourante. Je ferai comme s'il vous plaît. Ne te marie, mon ange, reprit Madame Claès, qu'au moment où Gabriel pourra te succéder dans le gouvernement des affaires et de la maison. Ton mari, oh, si tu te mariais, ne partagerait peut-être pas tes sentiments, jetterait le trouble dans la famille et tourmenterait ton père. Marguerite regarda sa mère et lui dit: N'avez-vous aucune autre recommandation à me faire sur mon mariage? Hésiterais-tu, ma chère enfant? Dit la mourante avec effroi. Non, 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 répondit-elle, je vous promets de vous obéir. Pauvre fille, je n'ai pas su me sacrifier pour vous, ajouta la mère en versant des larmes chaudes. Je te demande de te sacrifier pour tous. Oh, le bonheur rend égoïste. Oui, Marguerite, j'ai été faible parce que j'étais heureuse. Sois forte, conserve de la raison pour ceux qui n'en auront pas ici. Fais en sorte que tes frères, que ta sœur ne m'accusent jamais. Aime bien ton père, mais ne le contrarie pas trop. Elle pencha la tête sur son oreiller et n'ajouta pas un mot. Ses forces l'avaient trahie. Le combat intérieur entre la femme et la mère avait été trop violent. Quelques instants après, le clergé vint, précédé de l'abbé de Solis, et le parloir fut rempli par les gens de la maison. Quand la cérémonie commença, Madame Claès, que son confesseur avait réveillée, regarda toutes les personnes qui étaient autour d'elle et n'y vit pas Balthazar. Et monsieur, dit-elle. Ce mot où se résumaient et sa vie et sa mort fut prononcé d'un ton si lamentable qu'il causa un frémissement horrible dans l'assemblée. Malgré son grand âge, Martha s'élança comme une flèche, monta les escaliers et frappa durement à la porte du laboratoire. Monsieur, madame se meurt et l'on vous attend pour l'administrer, cria-t-elle avec la violence de l'indignation. Je descends, répondit Balthazar. Le muletier vint un moment après en disant que son maître le suivait. Madame Claës ne cessa de regarder la porte du parloir, mais son mari ne se montra qu'au moment où la cérémonie était terminée. L'abbé de Solis et les enfants entouraient le chevet de la mourante. En voyant entrer son mari, Joséphine rougit et quelques larmes roulèrent sur ses joues. « Tu allais sans doute décomposer l'azote, » lui dit-elle avec une douceur d'ange qui fit frissonner les assistants. « C'est fait !» s'écria-t-il d'un ton joyeux. « L'azote contient de l'oxygène et une substance de la nature des impondérables, qui vraisemblablement est le principe de la... » Il s'éleva des murmures d'horreur qui l'interrompirent et lui rendirent sa présence d'esprit. « Ah oui, que m'a-t-on dit ?» reprit-il. « T'es donc plus mal. Qu'est-il arrivé ?»« Il arrive, monsieur, » lui dit à l'oreille l'abbé de Solis, indigné, « que votre femme se meure et que vous l'avez tuée. » Sans attendre de réponse, l'abbé de Solis prit le bras d'Emmanuel et sortit, suivi des enfants qui le conduisirent jusque dans la cour. Balthazar demeura comme foudroyé et regarda sa femme en laissant tomber quelques larmes. « Tu meurs et je t'ai tué !» s'écria-t-il. « Mais que dit-il donc ?»« Mon ami, » reprit-elle, « je ne vivais que par ton amour et tu m'as à ton insu retiré ma vie. » « Laissez-nous, » dit Claës à ses enfants au moment où ils entrèrent. « Mais-je donc un seul instant cessé de t'aimer ?» reprit-il en s'asseyant au chevet de sa femme et lui prenant les mains qu'il baisa. « Mon ami, je ne te reprocherai rien. Tu m'as rendue heureuse, trop heureuse. Je n'ai pu soutenir la comparaison des premiers jours de notre mariage qui était plein et de ces derniers jours pendant lesquels tu n'as plus été toi-même et qui ont été vides. La vie du cœur, comme la vie physique, a ses actions. Depuis 6 ans, tu as été mort à l'amour, à la famille, à tout ce qui faisait notre bonheur. Oh, je ne te parlerai pas des félicités qui sont l'apanage de la jeunesse. Elles doivent cesser dans l'arrière-saison de la vie. Mais elles laissent des fruits dont se nourrissent les âmes. Une confiance sans borne de 12 habitudes. Eh bien, tu m'as ravi ces trésors de notre âge. Je m'en vais à temps. Nous ne vivions ensemble d'aucune manière. Tu me cachais tes pensées et tes actions. Et comment es-tu donc arrivé à me craindre? T'ai-je jamais adressé une parole, un regard, un geste empreint de blâme? Eh bien, tu as vendu tes derniers tableaux. Tu as vendu jusqu'au vin de ta cave et tu empruntes de nouveau sur les biens sans en avoir dit un mot. Ah, je sortirai donc de la vie, dégoûté de la vie. Et si tu commets des fautes, si tu t'aveugles en poursuivant l'impossible, ne pourrais-je donc pas montrer qu'il y avait en moi assez d'amour pour trouver de la douceur à partager tes fautes, à toujours marcher près de toi? M'eusses-tu mené dans les chemins du crime? Tu m'as trop bien aimé, là est ma gloire et là ma douleur. Ma maladie a duré longtemps, Balthazar. Elle a commencé le jour qu'à cette place où je vais expirer, tu m'as prouvé que tu appartenais plus à la science qu'à la famille. Eh bien, voici ta femme morte et ta propre fortune consumé. Ta fortune et ta femme t'appartenaient, tu pouvais en disposer. Mais le jour où je ne serai plus, ma fortune sera celle de tes enfants, et tu ne pourras rien prendre. Mais que vas-tu donc devenir? Maintenant, je te dois la vérité, les mots renvoient loin. Où sera désormais le contrepoids qui balancera la passion maudite de laquelle tu as fait ta vie? Si tu m'y as sacrifié, tes enfants seront bien légers devant toi, car je te dois cette justice d'avouer que tu me préférais à tout. 2 millions et 6 années de travaux ont été jetés dans ce gouffre, et tu n'as rien trouvé. » À ces mots, Claës mit sa tête blanchie dans ses mains et se cacha le visage. « Tu ne trouveras rien que la honte pour toi, la misère pour tes enfants, » reprit la mourante. « Les jaloux te nomment par dérision, Claës l'alchimiste, et plus tard ce sera Claës le fou. Moi, je crois en toi. Je te sais grand, savant, plein de génie, mais pour le vulgaire, le génie ressemble à de la folie. La gloire, le soleil des morts. Et de ton vivant, tu seras malheureux, comme tout ce qui fut grand, et tu ruineras tes enfants. Je m'en vais sans avoir joui de ta renommée, qui m'eût consolé d'avoir perdu le bonheur. Eh bien, mon cher Balthazar, pour me rendre cette mort moins amère, il faudrait que je fusse certaine que nos enfants ont un morceau de pain. Mais rien, pas même toi, ne pourrait calmer mes inquiétudes. Je jure, dit Claës, ne jure pas, mon ami, pour ne point manquer à tes serments, dit-elle en l'interrompant. Tu nous devais ta protection et nous as failli depuis près de 7 années. La science est ta vie. Un grand homme ne peut avoir ni femme ni enfant. Allez seul dans vos voies de misère. Vos vertus ne sont pas celles des gens vulgaires. Vous appartenez au monde, vous ne sauriez appartenir ni à une femme ni à une famille. Vous desséchez la terre alentour de vous comme font de grands arbres. Et moi, pauvre plante, je n'ai pu m'élever assez haut. J'expire à moitié de ta vie. J'attendais ce dernier jour pour te dire ces horribles pensées que je n'ai découvertes qu'aux éclairs de la douleur et du désespoir. Épargne mes enfants, que ce mot retentisse dans ton cœur. Je te le dirai jusqu'à mon dernier soupir. La femme est morte, vois-tu, tu l'as dépouillée lentement et graduellement de ses sentiments, de ses plaisirs. Hélas, sans ces cruels soins que tu as pris involontairement, aurais-je vécu si longtemps? Mais ces pauvres enfants ne m'abandonnaient pas, eux. Ils ont grandi près de mes douleurs. La mère a survécu. Épargne, épargne nos enfants. Le mulcunier ! Cria Balthazar d'une voix tonnante. Le vieux valet se montra soudain. Allez tout détruire là-haut, machine, appareil, faites avec précaution, mais brisez tout. Je renonce à la science, dit-il à sa femme. Il est trop tard, ajouta-t-elle en regardant le mulquinier. Marguerite, s'écria-t-elle en se sentant mourir. Marguerite se montra sur le seuil de la porte et jeta un cri perçant en voyant les yeux de sa mère qui pâlissaient. « Marguerite !» répéta la mourante. Cette dernière exclamation, quand on entendait un si violent appel à sa fille, elle l'investissait de tant d'autorité que ce cri fut tout un testament. La famille épouvantée accourut et vit expirer Madame Claës, qui avait épuisé les dernières forces de sa vie dans sa conversation avec son mari. Balthazar et Marguerite, immobiles, elle au chevet, lui au pied du lit, ne pouvaient croire à la mort de cette femme dont toutes les vertus et l'inépuisable tendresse n'étaient connues que d'eux. Le père et la fille échangèrent un regard pesant de pensée. La fille jugeait son père. Le père tremblait déjà de trouver dans sa fille l'instrument d'une vengeance. Quoique les souvenirs d'amour par lesquels sa femme avait rempli sa vie revinssent en foule à siéger sa mémoire et donnassent aux dernières paroles de la morte une sainte autorité qui devait toujours lui en faire écouter la voix, Balthazar doutait de son cœur trop faible contre son génie. Puis il entendait un terrible grondement de passion qui lui niait la force de son repentir et lui faisait peur de lui-même. Quand cette femme y disparut, chacun comprit que la maison Claës avait une âme et que cette âme n'était plus. Aussi la douleur fut-elle si vive dans la famille que le parloir où la noble Joséphine semblait revivre resta fermé. Personne n'avait le courage d'y rentrer. La société ne pratique aucune des vertus qu'elle demande aux hommes. Elle commet des crimes à toute heure, mais elle les commet en parole. Elle prépare les mauvaises actions par la plaisanterie, comme elle dégrade le beau par le ridicule. Elle se moque des fils qui pleurent trop leur père. Elle anathématise ceux qui ne les pleurent pas assez. Puis elle s'amuse. Elle a soupesé les cadavres avant qu'ils ne soient refroidis. Le soir du jour où Madame Claës expira, les amis de cette femme jetèrent quelques fleurs sur sa tombe entre deux parties de whist, se rendirent hommage à ses belles qualités en cherchant du cœur ou du pic. Puis, après quelques phrases lacrymales, qui sont la baby-bobu de la douleur collective, et qui se prononcent avec les mêmes intonations, sans plus ni moins de sentiments dans toutes les villes de France et à toute heure, chacun chiffra le produit de cette succession. Pierre Quint, le premier, fit observer à ceux qui causaient de cet événement que la mort de cette excellente femme était un bien pour elle. Son mari la rendait trop malheureuse. Mais que c'était pour ses enfants un plus grand bien encore. Elle n'aurait pas su refuser sa fortune à son mari qu'elle adorait, tandis qu'aujourd'hui Claës n'en pouvait plus disposer. Et chacun d'estimer la succession de la pauvre Madame Claës, de supputer ses économies. En avait-elle fait, n'en avait-elle pas fait? D'inventorier ses bijoux, d'étaler sa garde-robe, de fouiller ses tiroirs, pendant que la famille affligée pleurait et priait autour du lit mortuaire. Avec le coup d'œil d'un juré peseur de fortune, Pierre Quint calcula que les propres de Madame Claës, pour employer son expression, pouvait encore se retrouver et devait monter à une somme d'environ 1 500 000 francs, représentée soit par la forêt de Beigny, dont les bois avaient depuis 12 ans acquis un prix énorme, et il en compta les futaies, les baliveaux, les anciens, les modernes, soit par les biens de Balthazar qui étaient encore bons pour remplir ses enfants, si les valeurs de la liquidation ne la quittaient pas envers eux. Mademoiselle Claës était donc, pour toujours parler son argot, une fille de 400 000 francs. Mais si elle ne se marie pas pour te manger, ajouta-t-il, ce qui les brasse si près et permettrait de liciter la forêt de Vigny, de liquider la part des mineurs et de l'employer de manière à ce que le père n'y touche pas, M. Claës, cet homme a ruiné ses enfants. Chacun chercha qu'elles étaient dans la province, les jeunes gens capables de prétendre la main de Mademoiselle Claës, mais personne ne fit au notaire la galanterie de l'en supposer digne. Le notaire trouvait des raisons pour rejeter chacun des partis proposés comme indigne de Marguerite. Les interlocuteurs se regardaient en souriant et prenaient plaisir à prolonger cette malice de province. Pierre Quint avait déjà vu dans la mort de Madame Claës un événement favorable à ses prétentions, et il dépeçait déjà ce cadavre à son profit. « Cette bonne femme-là, se dit-il en rentrant chez lui pour se coucher, était fière comme un paon, elle ne m'aurait jamais donné sa fille, pourquoi ne me devrais-je pas maintenant de manière à l'épouser ? Le père Claës est un homme Yves de Carbone qui ne se soucie plus de ses enfants. Et si je lui demande sa fille, après avoir convaincu Marguerite de l'urgence où elle est de se marier, pour sauver la fortune de ses frères et de sa sœur, il sera content de se débarrasser d'une enfant qui peut le tracasser. » Il s'endormit en entrevoyant les beautés matrimoniales du contrat, en méditant tous les avantages que lui offrait cette affaire, et les garanties qu'il trouvait pour son bonheur dans la personne dont il se faisait l'époux. Il était difficile de rencontrer dans la province une jeune personne plus délicatement belle et mieux élevée que ne l'était Marguerite. Sa modestie, sa grâce étaient comparables à celle de la jolie fleur qu'Emmanuel n'avait osé nommer devant elle, en craignant de découvrir ainsi les vœux secrets de son cœur. Ses sentiments étaient fiers, ses principes étaient religieux, elle devait être une chaste épouse, mais elle ne flattait pas seulement la vanité que tout homme porte plus ou moins dans le choix d'une femme, elle satisfaisait encore l'orgueil du notaire par l'immense considération dont sa famille, doublement noble, jouissait en Flandre et que partagerait son mari. Le lendemain, Pierre Quint tira de sa caisse quelques billets de 1 000 francs et vint amicalement les offrir à Balthazar afin de lui éviter les ennuis pécuniaires au moment où il était plongé dans la douleur. Touché de cette attention délicate, Balthazar ferait sans doute à sa fille l'éloge du cœur et de la personne du notaire. Il n'en fut rien. M. Claës et sa fille trouvèrent cette action toute simple, et leur souffrance était trop exclusive pour qu'ils pensassent à Pierre Quint. En effet, le désespoir de Balthazar fut si grand que les personnes disposées à blâmer sa conduite la lui pardonnèrent moins au nom de la science qui pouvait l'excuser qu'en faveur de ses regrets qui ne réparaient point le mal. Le monde se contente de grimaces, il se paie de ce qu'il donne sans en vérifier la loi. Pour lui, la vraie douleur est un spectacle, une sorte de jouissance qui le dispose à tout absoudre, même un criminel. Dans son avidité d'émotion, il acquitte sans discernement et celui qui le fait rire et celui qui le fait pleurer, sans leur demander compte des moyens. Marguerite avait accompli sa 19e année quand son père lui remit le gouvernement de la maison, où son autorité fut pieusement reconnue par sa sœur et ses deux frères, à qui, pendant les derniers moments de sa vie, Madame Claës avait recommandé d'obéir à leur aîné. Le deuil rehaussait sa blanche fraîcheur, de même que la tristesse mettait en relief sa douceur et sa patience. Dès les premiers jours, elle prodigua les preuves de ce courage féminin, de cette sérénité constante, que doivent avoir les anges chargés de répandre la paix en touchant de leurs palmes vertes les cœurs souffrants. Mais si elle s'habitua, par l'attente prématurée de ses devoirs, à cacher ses douleurs, elles n'en furent que plus vives. Son extérieur calme était en désaccord avec la profondeur de ses sensations, et elle fut destinée à connaître de bonheur ces terribles explosions de sentiments que le cœur ne suffit pas toujours à contenir. Son père devait sans cesse la tenir pressée entre les générosités naturelles aux jeunes âmes et la voix d'une impérieuse nécessité. Les calculs qui l'enlacèrent le lendemain même de la mort de sa mère la mirent aux prises avec les intérêts de la vie, au moment où les jeunes filles n'en conçoivent que les plaisirs. Affreuse éducation de souffrance qui n'a jamais manqué aux natures angéliques. L'amour qui s'appuie sur l'argent et sur la vanité forme la plus opiniâtre des passions. Pierre Quint ne voulut pas tarder à circonvenir l'héritière. Quelques jours après la prise du deuil, il chercha l'occasion de parler à Marguerite et commença ses opérations avec une habileté qui aurait pu la séduire. Mais l'amour lui avait jeté dans l'âme une clairvoyance qui l'empêcha de se laisser prendre à des dehors d'autant plus favorables aux tromperies sentimentales que dans cette circonstance, Pierre Quint déployait la bonté qui lui était propre, la bonté du notaire qui se croit aimant quand il sauve des écus. Fort de sa douteuse parenté, de la constante habitude qu'il avait de faire les affaires et de partager les secrets de cette famille, sûr de l'estime et de l'amitié du père, bien servi par l'insouciance d'un savant qui n'avait aucun projet arrêté pour l'établissement de sa fille, et ne supposant pas que Marguerite pût avoir une prédilection, il lui laissa juger une poursuite qui ne jouait la passion que par l'alliance des calculs les plus odieux à de jeunes âmes et qui ne sut pas voiler. Ce fut lui qui se montra naïf et ce fut elle qui usa de dissimulation, précisément parce qu'il croyait agir contre une fille sans défense et qu'il méconnut les privilèges de la faiblesse. « Ma chère cousine, dit-il à Marguerite, avec laquelle il se promenait dans les allées du petit jardin, vous connaissez mon cœur et vous savez combien je suis porté à respecter les sentiments douloureux qui vous affectent en ce moment. Mais j'ai l'âme trop sensible pour être notaire. Je ne vis que par le cœur et je suis obligé de m'occuper constamment des intérêts d'autrui quand je voudrais me laisser aller aux émotions douces qui font la vie heureuse. Aussi souffrais-je beaucoup d'être forcé de vous parler de projets discordants avec l'état de votre âme, mais il le faut. J'ai beaucoup pensé à vous depuis quelques jours. Je viens de reconnaître que, par une fatalité singulière, la fortune de vos frères et de votre sœur, la vôtre même, sont en danger. Voulez-vous sauver votre famille d'une ruine complète? Mais que faudrait-il faire? Dit-elle effrayée à demi par ces paroles. Bien, vous mariez, répondit Pierre Quint. Ah non, je ne me marierai point, s'écria-t-elle. Non, vous vous marierez, reprit le notaire, quand vous aurez réfléchi mûrement à la situation critique dans laquelle vous êtes. Mais comment mon mariage peut-il sauver? Voilà où je vous attendais, ma cousine, dit-il en interrompant. Le mariage émancipe. Mais pourquoi m'émanciperait-on? Dit Marguerite. Bien pour vous mettre en possession, ma chère petite cousine, dit le notaire d'un air de triomphe. Dans cette occurrence, vous prenez votre quart dans la fortune de votre mère, et pour vous le donner, il faut la liquider. Or, pour la liquider, ne faudra-t-il pas liciter la forêt de Vigny? Cela posé, toutes les valeurs de la succession se capitaliseront, et votre père sera tenu, comme tuteur, de placer la part de vos frères et de votre sœur, en sorte que la chimie ne pourra plus y toucher. Et dans le cas contraire, qu'arriverait-il? Demanda-t-elle. Mais, dit le notaire, votre père administrera vos biens. S'il se remettait à vouloir faire de l'or, il pourrait vendre le bois de Vigny et vous laisser nus comme des petits Saint-Jean. La forêt de Vigny vaut en ce moment près de 1 400 000 francs. Mais qu'aujourd'hui pour demain votre père la coupe à blanc, vos 1 300 arpents ne vaudront pas 300 000 francs. Ne vaut-il pas mieux éviter ce danger, à peu près certain, en faisant échoir dès aujourd'hui le cas de partage par votre émancipation? Vous sauverez ainsi toutes les coupes de la forêt desquelles votre père disposerait plus tard à votre préjudice. En ce moment que la chimie dort, il placera nécessairement les valeurs de la liquidation sur le grand livre. Les fonds sont à 59. Ces chers enfants ont donc près de 5 000 livres de rente pour 50 000 francs. Et attendu qu'on ne peut pas disposer des capitaux appartenant aux mineurs, à leur majorité, vos frères et votre sœur verront leur fortune doublée. Tandis que, autrement, ma foi... Voilà. D'ailleurs, votre père a écorné le bien de votre mère. Nous saurons le déficit par un inventaire. S'il est reliquataire, vous rendrez l'hypothèse sur ses biens, et vous en sauverez déjà quelque chose. Fi, dit Marguerite, ce serait outrager mon père. Les dernières paroles de ma mère n'ont pas été prononcées depuis si peu de temps que je puisse me les rappeler. Mon père est incapable de dépouiller ses enfants, dit-elle en laissant échapper des larmes de douleur. Vous le méconnaissez, monsieur Pierrequin. Mais si votre père, ma chère cousine, se remet à la chimie, nous serions ruinés, n'est-ce pas? Oh, mais complètement ruinés! Croyez-moi, Marguerite, dit-il en lui prenant la main qu'il mit sur son cœur. Je manquerais à mes devoirs si je n'insistais pas. Votre intérêt seul. Monsieur, dit Marguerite d'un air froid en lui retirant sa main, l'intérêt bien entendu de ma famille exige que je ne me marie pas. Ma mère en a jugé ainsi. Cousine, s'écria-t-il avec la conviction d'un homme d'argent qui voit perdre une fortune, mais vous vous suicidez! Vous jetez à l'eau la succession de votre mère. Eh bien, j'aurai le dévouement de l'excessive amitié que je vous porte. Vous ne savez pas combien je vous aime. Je vous adore depuis le jour où je vous ai vu au dernier bal que votre père a donné. Vous étiez ravissante. Vous pouvez vous fier à la voix du cœur quand elle parle intérêt, ma chère Marguerite. Il fit une pause. Oui, nous convoquerons un conseil de famille et nous vous émanciperons sans vous consulter. Mais qu'est-ce donc qu'être émancipé? Ben, c'est jouir de ses droits. Mais si je puis être émancipé sans me marier, pourquoi voulez-vous donc que je me marie? Et avec qui? Pierrequin essaya de regarder sa cousine d'un air tendre. Mais cette expression contrastait si bien avec la rigidité de ses yeux habitués à parler d'argent que Marguerite put apercevoir du calcul dans cette tendresse improvisée. Vous auriez épousé la personne qui vous aurait plu dans la ville, reprit-il. Un mari vous est indispensable, même comme affaire. Vous allez être en présence de votre père. Seul, vous l'allez lui résister? Oui, monsieur, je saurai défendre mes frères et ma sœur quand il en sera temps. Peste la commère, dit Pierrequin. Mais non, vous ne saurez pas lui résister, reprit-il à haute voix. Brisons sur ce sujet, dit-elle. Adieu, cousine, je tâcherai de vous servir malgré vous. Et je prouverai combien je vous aime en vous protégeant, malgré vous, contre un malheur que tout le monde prévoit en ville. Je vous remercie de l'intérêt que vous me portez, mais je vous supplie de ne rien proposer ni faire entreprendre qui puisse causer le moindre chagrin à mon père. Marguerite resta pensive en voyant Pierrequin s'éloigner. Elle en compara la voix métallique, les manières qui n'avaient que la souplesse des ressorts, les regards qui peignaient plus de servilisme que de douceur, aux poésies mélodieusement muettes dont les sentiments d'Emmanuel étaient revêtus. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il existe un magnétisme admirable dont les effets ne trompent jamais. Le son de la voix, le regard, les gestes passionnés de l'homme aimant peuvent s'imiter. Une jeune fille peut être trompée par un habile comédien. Mais pour réussir, ne doit-il pas être seul? Si cette jeune fille a près d'elle une âme qui vibre à l'unisson de ses sentiments, n'a-t-elle pas bientôt reconnu les expressions du véritable amour? Emmanuel se trouvait dans ce moment, comme Marguerite, sous l'influence des nuages qui, depuis leur rencontre, avaient formé fatalement une sombre atmosphère au-dessus de leur tête et qui leur dérobait la vue du ciel bleu de l'amour. Il avait, pour son élu, cette idolâtrie que le défaut d'espoir rend si douce et si mystérieuse dans ses pieuses manifestations. Socialement placé trop loin de Mademoiselle Claës, par son peu de fortune et n'ayant qu'un beau nom à lui offrir, il ne voyait aucune chance d'être accepté pour son époux. Il avait toujours attendu quelques encouragements que Marguerite s'était refusée à donner sous les yeux défaillants d'une mourante. Également pur, il ne s'était donc pas encore dit une seule parole d'amour. Leur joie avait été les joies égoïstes que les malheureux sont forcés de savourer seuls. Ils avaient frémi séparément, quoiqu'ils fussent agités par un rayon parti de la même espérance. Ils semblaient avoir peur d'eux-mêmes, en se sentant déjà trop bien l'un à l'autre. Aussi Emmanuel tremblait-il d'effleurer la main de la souveraine à laquelle il avait déjà fait un sanctuaire dans son cœur. Le plus insouciant contact aurait développé chez lui de trop irritantes voluptés. Il aurait pu être le maître de ses sens déchaînés. Mais quoiqu'il ne se fût rien accordé des frêles et immenses, des innocents et sérieux témoignages que se permettent les amants les plus timides, ils s'étaient néanmoins si bien logés au cœur l'un de l'autre que tous deux se savaient prêts à se faire les plus grands sacrifices, seul plaisir qu'ils puissent goûter. Depuis la mort de Madame Claës, leur amour secret s'étouffait sous les crêpes du deuil. De brune, les teintes de la sphère où ils vivaient étaient devenues noires, et les clartés s'y éteignaient dans les larmes. La réserve de Marguerite se changea presque en froideur, car elle avait à tenir le serment exigé par sa mère, et devenant plus libre qu'auparavant, elle se fit plus rigide. Emmanuel avait épousé le deuil de sa bien-aimée en comprenant que le moindre vœu d'amour, la plus simple exigence, serait une forfaiture envers les lois du cœur. Ce grand amour était donc plus caché qu'il ne l'avait jamais été. Ces deux âmes tendres rendaient toujours le même son, mais, séparées par la douleur, comme elles l'avaient été par les timidités de la jeunesse et par le respect dû aux souffrances de la morte, elles s'en tenaient encore au magnifique langage des yeux, à la muette éloquence des actions dévouées, à une cohérence continuelle, sublimes harmonies de la jeunesse, premier pas de l'amour en son enfance. Emmanuel venait chaque matin savoir des nouvelles de Claës et de Marguerite, mais il ne pénétrait dans la salle à manger que quand il apportait une lettre de Gabriel ou quand Balthazar le priait d'entrer. Son premier coup d'œil jeté sur la jeune fille lui disait mille pensées sympathiques. Il souffrait de la discrétion que lui imposaient les convenances. Il ne l'avait pas quittée, il en partageait la tristesse, enfin, il épandait la rosée de ses larmes au cœur de son ami par un regard que n'altérait aucune arrière-pensée. Ce bon jeune homme vivait si bien dans le présent, il s'attachait tant à un bonheur qu'il croyait fugitif, que Marguerite se reprochait parfois de ne pas lui tendre généreusement la main en lui disant « Soyons amis ». Pierre Quint continua ses obsessions avec cet entêtement qui est la patience irréfléchie des sots. Il jugeait Marguerite selon les règles ordinaires employées par la multitude pour apprécier les femmes. Il croyait que les mots « mariage »,« liberté »,« fortune » qui lui avaient jeté dans l'oreille et germeraient dans son âme, y feraient fleurir un désir dont il profiterait, et il s'imaginait que sa froideur était de la dissimulation. Mais quoiqu'il l'entourât de soins et d'attentions galantes, il cachait mal les manières despotiques d'un homme habitué à trancher les plus hautes questions relatives à la vie des familles. Il disait, pour la consoler, de ces lieux communs, familiers aux gens de sa profession, lesquels passent en colimaçon sur les douleurs et y laissent une traînée de paroles sèches qui en déflore la sainteté. Sa tendresse était du patelinage. Il quittait sa feinte mélancolie à la porte en reprenant ses doubles souliers ou son parapluie. Il se servait du ton que sa longue familiarité l'autorisait à prendre comme d'un instrument pour se mettre plus avant dans le cœur de la famille, pour décider Marguerite à un mariage proclamé par avance dans toute la ville. L'amour vrai, dévoué, dérespectueux, formait donc un contraste frappant avec un amour égoïste et calculé. Tout était homogène en ces deux hommes. L'un feignait une passion et s'armait de ses moindres avantages afin de pouvoir épouser Marguerite, et l'autre cachait son amour et tremblait de laisser apercevoir son dévouement. Quelque temps après la mort de sa mère, et dans la même journée, Marguerite put comparer les deux seuls hommes qu'elle était à même de juger. Jusqu'alors, la solitude à laquelle elle avait été condamnée ne lui avait pas permis de voir le monde et la situation où elle se trouvait ne laissait aucun accès aux personnes qui pouvaient penser à la demander en mariage. Un jour, après le déjeuner, par une des premières belles matinées du mois d'avril, Emmanuel vint au moment où M. Claës sortait. Balthazar supportait si difficilement l'aspect de sa maison qu'il allait se promener le long des remparts pendant une partie de la journée. Emmanuel voulut suivre Balthazar. Il hésita, parut puiser ses forces en lui-même, regarda Marguerite et resta. Marguerite devina que le professeur voulait lui parler et lui proposa de revenir au jardin. Elle renvoya sa sœur Félicie près de Martha qui travaillait dans l'antichambre située au premier étage, puis elle s'alla placer sur un banc où elle pouvait être vue de sa sœur et de la vieille duègne. « Monsieur Claës est aussi absorbé par le chagrin qu'il l'était par ses recherches savantes, » dit le jeune homme en voyant Balthazar marchant lentement dans la cour. « Tout le monde le plaint en ville. Il va comme un homme qui n'a plus ses idées. Il s'arrête sans motif, regarde sans voir. « Chaque douleur a son expression, » dit Marguerite en retenant ses pleurs. « Mais que vouliez-vous me dire ? » reprit-elle après une pause et avec une dignité froide. « Mais mademoiselle, » répondit Emmanuel d'une voix émue, « ai-je le droit de vous parler comme je vais le faire ? Ne voyez, je vous prie, que mon désir de vous être utile, et laissez-moi croire qu'un professeur peut s'intéresser au sort de ses élèves au point de s'inquiéter de leur avenir. Votre frère Gabriel a 15 ans passés, il est en seconde et certes il est nécessaire de diriger ses études dans l'esprit de la carrière qu'il embrassera. Monsieur votre père est le maître de décider cette question, mais s'il n'y pensait pas, ne serait-ce pas un malheur pour Gabriel ? Ne serait-ce pas aussi bien mortifiant pour monsieur votre père si vous lui faisiez observer qu'il ne s'occupe pas de son fils ? Dans cette conjoncture, ne pourriez-vous pas consulter votre frère sur ses goûts, lui faire choisir par lui-même une carrière, afin que, si plus tard son père voulait en faire un magistrat, un administrateur, un militaire, Gabriel eut déjà des connaissances spéciales. Je ne crois pas que ni vous ni M. Claës vous vouliez le laisser oisif. Oh non, dit Marguerite. Oh, je vous remercie, M. Emmanuel, vous avez raison. Ma mère, en nous faisant faire de la dentelle, en nous en prenant avec tant de soin à dessiner, à coudre, à broder, à toucher du piano, nous disait souvent qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver dans la vie. Gabriel doit avoir une valeur personnelle et une éducation complète. Mais quelle est la carrière la plus convenable que puisse prendre un homme ? Mademoiselle, dit Emmanuel en tremblant de bonheur, Gabriel est celui de sa classe qui montre le plus d'aptitude aux mathématiques. Si vous voulez entrer à l'école polytechnique, je crois qu'il y acquerrait des connaissances utile dans toutes les carrières. À sa sortie, il resterait le maître de choisir celle pour laquelle il aurait le plus de goût. Sans avoir rien préjugé jusque-là sur son avenir, vous aurez gagné du temps. Les hommes sortis avec honneur de cette école sont les bienvenus partout. Elle a fourni des administrateurs, des diplomates, des savants, des ingénieurs, des généraux, des marins, des magistrats, des manufacturiers et des banquiers. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à voir un jeune homme riche ou de bonne maison, travaillant dans le but d'y être admis. Et si Gabriel s'y décidait, je vous demanderais. Oh, me l'accorderez-vous? Oh, lui dites oui. Mais que voulez-vous? Être son répétiteur, dit-il en tremblant. Marguerite regarda M. de Senlis, lui prit la main et lui dit oui. Elle fit une pause et ajouta d'une voix émue: Combien j'apprécie la délicatesse que vous faites offrir précisément ce que je puis accepter de vous. De ce que vous venez de dire, je vois que vous avez bien pensé à nous. Je vous remercie. Quoique ces paroles fussent dites simplement, Emmanuel détourna la tête pour ne pas laisser voir les larmes que le plaisir d'être agréable à Marguerite lui fit venir aux yeux. Bien, je vous les amènerai tous les deux, dit-il quand il eut repris un peu de calme. C'est demain jour de congé. Il se leva, salua Marguerite qui le suivit, et quand il fut dans la cour, il la vit encore à la porte de la salle à manger, d'où elle lui adressa un signe amical. Après le dîner, le notaire vint faire une visite à M. Claës et s'assit dans le jardin entre son cousin et Marguerite, précisément sur le banc où s'était mis Emmanuel. Mon cher cousin, dit-il, je suis venu ce soir vous parler affaires. 43 jours se sont écoulés depuis le décès de votre femme. Bon, je ne les ai pas comptés, dit Balthazar en essuyant une larme que lui arracha le mot légal de décès. Oh, monsieur, dit Marguerite en regardant le maître, le notaire, mais comment pouvez-vous? Mais, ma cousine, nous sommes forcés, nous autres, de compter les détails qui sont fixés par la loi. Mais il s'agit précisément de vous et de vos cohéritiers. Monsieur Claës n'a que des enfants mineurs. Il est tenu de faire un inventaire dans les 45 jours qui suivent le décès de sa femme afin de constater les valeurs de la communauté. Ne faut-il pas savoir si elle est bonne ou mauvaise pour l'accepter ou pour s'en tenir au droit pur et simple des mineurs? Marguerite se leva. Restez, ma cousine, dit Pierre Quint. Ces affaires vous concernent, vous et votre père. Vous savez combien je prends part à vos chagrins. Mais il faut vous occuper aujourd'hui même de ces détails, sans quoi vous pourriez les uns et les autres vous en trouver fort mal. Je fais en ce moment mon devoir comme notaire de la famille. Il a raison, dit Claës. Bien, le délai expire dans 2 jours, reprit le notaire. Je dois donc procéder dès demain à l'ouverture de l'inventaire, quand ce ne serait que pour retarder le paiement des droits de succession que le fisc va venir vous demander. Oh, et le fisc n'a pas de cœur. Il ne s'inquiète pas des sentiments. Il met sa griffe sur nous en tout temps. Donc, tous les jours, depuis 10 heures jusqu'à 4 heures, mon clerc et moi, nous viendrons avec l'huissier priseur, monsieur Raparlier. Et quand nous aurons achevé en ville, nous irons dans la campagne. Quant à la forêt de Vigny, nous allons en causer. Oh, cela posé, passons à un autre point. Nous avons un conseil de famille à convoquer pour nommer un subrogé tuteur. Monsieur Coningue de Bruges est aujourd'hui votre plus proche parent, mais le voilà devenu belge. Vous devriez, mon cousin, lui offrir à ce sujet pour sondier si le bonhomme a envie de se fixer en France, où il possède de belles propriétés. Et vous pourriez le décider ainsi à venir, lui et sa fille, habiter la Flandre française. S'il refuse, verrez à composer le conseil d'après les degrés de parenté. À quoi sert un inventaire? Demanda Marguerite. À constater les droits, les valeurs, l'actif et le passif. Et quand tout est bien établi, le conseil de famille prend dans l'intérêt des mineurs les déterminations qu'ils jugent. Pierre Quint, dit Claës, qui se leva du banc, Pas céder aux actes que vous croirez nécessaires à la conservation des droits de mes enfants. Mais évitez-nous le chagrin de voir vendre ce qui appartenait à ma chair. » Il n'acheva pas. Il avait dit ces mots d'un air si noble et d'un ton si pénétré que Marguerite prit la main de son père et la baisa. « À demain, » dit Pierre Quint. « Venez déjeuner, » dit Balthazar. Puis Claës parut rassembler ses souvenirs et s'écria. « Mais d'après mon contrat de mariage qui a été fait sous la coutume de Hainaut, j'avais dispensé ma femme de l'inventaire afin qu'on ne la tourmente à point. N'y suis probablement pas tenu non plus. » « Ah, mais quel bonheur !» dit Marguerite. « Il nous aurait causé tant de peine. »« Eh bien, nous examinerons votre contrat demain, » répondit le notaire un peu confus. « Vous ne le connaissez donc pas ?» lui dit Marguerite. Cette observation interrompit l'entretien. Le notaire se trouva trop embarrassé de continuer après l'observation de sa cousine. « Le diable s'en mêle !» se dit-il dans la cour. « Mais cet homme si distrait retrouve la mémoire juste au moment où il le faut pour empêcher de prendre des précautions contre lui. Ses enfants seront dépouillés. Oh, c'est aussi sûr que deux et deux font quatre. Parlez donc à faire à des filles de 19 ans qui font du sentiment. Mais j'ai crevé la tête pour sauver le bien de ces enfants-là, en procédant régulièrement et en m'entendant avec le bonhomme Comminges. Et voilà, je me perds dans l'esprit de Marguerite, qui m'a demandé à son père pourquoi je voulais procéder à un inventaire qu'elle croit inutile. Et M. Claës lui dira que les notaires ont la manie de faire des actes, et que nous sommes notaires avant d'être parents, cousins ou amis, enfin des bêtises. » Il ferma la porte avec violence, en pestant contre les clients qui se ruinaient par sensibilité. Balthazar avait raison. L'inventaire n'eut pas lieu. Rien ne fut donc fixé sur la situation dans laquelle se trouvait le père vis-à-vis de ses enfants. Plusieurs mois s'écoulèrent sans que la situation de la maison Claës changeât. Gabriel, habilement conduit par M. de Solis, qui s'était fait son précepteur, travaillait avec application, apprenait les langues étrangères et se disposait à passer l'examen nécessaire pour entrer à l'école polytechnique.